Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la Russie. 2017 marque le 100e anniversaire de la révolution d'octobre 1917. Ce début d'année est aussi marqué par l'intronisation de Donald Trump à la Maison Blanche, le déplacement du centre de gravité dans la guerre syrienne, les accusations de cyberguerre à l'encontre de la Russie soupçonnée d'avoir pesé dans la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Pour cette édition, en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, regard sur les horizons de la politique extérieure russe en 2017. Nos invités, Françoise Thom, historienne, maître de conférence à Paris 4, Sorbonne, bonjour.
Bonjour.
Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, directeur et coordinateur du rapport annuel de l'Observatoire Russie 2016, et Arnaud Dubien qui est aussi chercheur associé à l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, docteur en histoire et auteur de Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient aux éditions L'Inventaire, bonjour.
Bonjour.
Vladimir Poutine se présente comme le champion de la lutte contre le terrorisme islamique et s'impose comme un pivot au Moyen-Orient. À ces succès qui ne sont pas encore entiers, on va le voir, s'ajoutent des surprises, la remontée des cours du pétrole, l'élection de Donald Trump et une certaine résonance des thèmes pro-russes en Europe. La réunion d'Astana cette semaine n'a été qu'un demi-succès, les rebelles et les représentants du régime de Bachar al-Assad n'ayant pas signé la déclaration finale. Est-ce qu'elle ne montre pas finalement cette réunion d'Astana qu'il est plus facile pour Moscou d'enchaîner des victoires militaires comme à Alep, totalement reprise par les forces syriennes, que de rétablir la paix ? Igor Delanoë.
Bah écoutez, je crois qu'on peut déjà dire qu'en soi c'est un succès que cette réunion ait pu avoir lieu, puisque jusqu'au dernier moment on se demandait dans quelles conditions elle pourrait se tenir, avec qui, puisqu'il y avait des doutes sur les participants, les États-Unis, dans quelles conditions, avec qui, quel groupe d'opposition armée viendrait rejoindre les négociations. Bon, finalement on a eu sept participants, sept acteurs principaux autour de la table: Turquie, Iran, Russie, ONU, États-Unis, opposition armée et régime. Effectivement, le document final n'a pas été paraphé ni par le régime syrien ni par l'opposition armée. Cela dit, la réunion de Genève est toujours prévue, le 8 ou 9 février prochain. Donc le processus de Genève n'est pas, mort, n'a pas été concurrencé outre mesure par la réunion d'Astana. Cela dit, sur le terrain, on assiste quand même à des évolutions assez intéressantes, notamment dans la province d'Idlib, puisque le fameux groupe Harar al-Sham, qui a refusé de se joindre aux discussions à Astana, a rassemblé sous sa houlette un certain nombre d'autres groupes armés qui n'ont pas souhaité non plus prendre part aux discussions et sont en guerre ouverte contre le Jabhat al-Nosra, qui lui-même fait l'objet de bombardements assez intenses et réguliers de la part de la coalition emmenée par les États-Unis, notamment depuis le début, la veille ou l'avant-veille d'Astana. Donc là, on a une espèce de recomposition du paysage de l'opposition armée ex-terroriste, maintenant opposition armée, notamment dans la province d'Idlib, dont on peut imaginer qu'elle reçoit le soutien évidemment explicite aérien de la coalition pour aller se battre contre le Jabhat al-Nosra. Donc vous faisiez référence à la guerre contre le terrorisme. Il semblerait que là, on s'achemine vers une nouvelle phase, dans cette province-là en tout cas, sans passer de ce qui se passe avec l'État islamique dans la partie orientale du pays, de lutte contre le terrorisme. Comment va se positionner la Russie, ça reste à voir.
Alors, sur le rôle de Moscou, François Sturm, est-ce que finalement les Occidentaux ont d'autres choix que de soutenir Moscou dans son entreprise diplomatique ?
Je crois qu'il faut attendre de voir comment les choses vont tourner. Pour l'instant, Moscou a bombardé la Syrie, stabilisé le régime de Bachar el-Assad. Mais la partie difficile, elle commence maintenant. C'était facile, par exemple, de renverser Saddam Hussein en Irak. Ce qui est difficile, c'est après. Donc, il faut voir comment les choses évoluent. À mon avis, il ne faut pas se précipiter dans ces sables mouvants. Mmh. La Russie veut imposer sa paix. Ben, qu'elle essaye, mais je ne vois pas l'intérêt immédiat de nous engager derrière Moscou.
Donc prudence et attente.
Prudence et attente, oui.
Arnaud Dubien, est-ce que l'entente Iran-Turquie-Russie peut durer longtemps ?
Écoutez, les relations, historiquement, les relations entre la Russie et les empires perses et ottomans, puis Iran et Turquie ont toujours été très complexes. Hein. Ce sont des pays qui se sont fait la guerre à de très nombreuses reprises au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc il y a un arrière-fond historique extrêmement lourd, avec une défiance persistante, notamment en Turquie et en Iran, vis-à-vis de ce qui a toujours été perçu comme des ambitions impériales vers le sud. Bon, ceci posé, il y a depuis l'effondrement de l'URSS, un certain nombre de convergences, de rapprochements, plus ou moins tactiques, avec l'Iran, par exemple. Depuis le milieu des années 90, la Russie a établi une relation assez dense, avec au début des relations commerciales, une centrale nucléaire, et puis des convergences régionales en Afghanistan et ailleurs. Et aujourd'hui, donc, très clairement, une coordination très étroite sur le terrain, y compris au plan militaire, en Syrie. Avec la Turquie, c'est différent, dans le sens où la Turquie est membre de l'OTAN. Les différents géopolitiques régionaux se sont poursuivis après l'effondrement de l'URSS. Je pense en particulier à la Tchétchénie, à tous ces affaires, et au Kurdistan. Il y avait un jeu, un double jeu de part et d'autre. Hein. Les Turcs, dans un premier temps, soutenant plus ou moins ouvertement la rébellion tchétchène, et les Russes jouant un jeu un peu ambigu avec le PKK, en tout cas jusqu'à la fin des années 90. Ce que l'on voit là aussi, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de la relation bilatérale au plan économique, et depuis quelque temps, des hauts et des bas, mais malgré tout, des lignes ont bougé, il y a une densification de la relation russo-turque. Est-ce que ça va suffire à régler la situation en Syrie? Franchement, je n'en sais rien. Ce qui est intéressant et ce qui est marquant, pour rebondir sur votre précédente question, c'est que les Occidentaux, à ce stade, ne sont plus associés. Alors, je ne sais pas si la question, c'est de suivre Moscou ou pas. Je pense que l'urgence pour nous, c'est de retrouver une place à la table des négociations.
Igor Delannoy.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, quand on regarde de plus près ce qui a été présenté comme le triangle Russie, Iran, Turquie, c'est que ces trois pays qui ont évidemment des relations éminemment complexes avec l'Occident, de manière générale, la communauté euro-atlantique et l'Occident. Et quelque part, leurs relations compliquée avec l'Occident et structurante dans la relation que eux-mêmes entretiennent. Et c'était, je dirais, assez flagrant lors des préparatifs d'Astana avec l'affaire des États-Unis, c'est-à-dire les Russes et les Turcs plutôt favorables pour une présence américaine à la table des négociations, tandis que les Iraniens étaient catégoriquement opposés. En fait, j'ai le sentiment que les trois se disputaient un peu la possibilité d'offrir le ticket d'entrée aux États-Unis dans le processus de négociation, une sorte de course à l'échelle l'autre, finalement, sur qui sera le meilleur partenaire pour les Américains, pour les faire reprendre pied dans un processus dont ils sont maintenant, je dirais, en marge, un peu, pour faire un parallèle avec avec ce qui se passe en Ukraine, un peu comme le processus de Minsk, où ils ne sont pas formellement dans le processus de négociation diplomatique. Ils sont dans le fond, ils influencent, ils interagissent, mais ils ne sont pas à la table des négociations. Donc, à mon avis, on peut aussi le voir interpréter comme ça.
On reviendra bien sûr sur la question des accords de Minsk, on parle là de l'Ukraine, mais pour rester sur le Proche-Orient et la question syrienne, Françoise Thom, est-ce que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche peut précisément changer la donne et faciliter ce retour des États-Unis sur la question du règlement?
C'est une question très difficile parce qu'on ne sait pas ce que va faire Trump et donc comme il est passablement imprévisible, oui, cela peut changer la donne sur le terrain. Mais il est vraiment difficile de prévoir ce qu'il va faire.
Arnaud Dubien.
Oui, alors on commence à voir en tout cas que Donald Trump est certes imprévisible, mais il a de la suite dans les idées. Pour l'instant, il fait ce qu'il a annoncé. Et donc on voit qu'il y a, à l'égard de la Russie en tout cas, une volonté de ne pas continuer sur la même ligne que l'administration précédente, de ne pas s'engager, plutôt d'essayer de sortir d'une logique de confrontation et peut-être de tester cette sortie de crise bilatérale en Syrie par le biais d'une lutte conjointe contre le terrorisme. Alors, est-ce que c'est contre Al-Qaïda, contre l'État islamique à suivre? Mais il me semble que les lignes peuvent bouger assez rapidement, la condition étant malgré tout que le premier contact entre Poutine et Trump se passe bien. Pourquoi ? Parce que on voit bien que cette volonté de changer de logiciel en relation avec la Russie, c'est une initiative assez personnelle. Trump n'est pas seul sur cette ligne. On peut mentionner d'autres personnes dans son administration, le général Flynn par exemple, mais il est clair que l'establishment à Washington y est hostile. Donc, à mon avis, il va y avoir une tentative Si elle fonctionne, on va voir des évolutions qui peuvent d'ailleurs s'étendre ailleurs. Pourquoi pas d'ailleurs sur le dossier ukrainien. Mmh. En revanche, si ça ne fonctionne pas, on peut assister à une forme de rechute ou à un retour, je dirais, à des logiques qu'on a observées ces dernières années dans les relations bilatérales et, par voie de conséquence, dans les dossiers régionaux qui concernent les Russes et les Américains.
Mais y a-t-il finalement des raisons pour que cela ne fonctionne pas, Arnaud Dubien?
Oui, encore une fois, il y a, vous savez, la lutte antiterroriste implique une coopération étroite entre services de renseignement et militaires. Or, manifestement, services de renseignement russes et américains ne se font pas confiance, c'est un doux euphémisme, et le Pentagone et le ministère russe de la Défense non plus. Donc, il ne sera pas facile de faire travailler ces gens ensemble, d'aller à l'encontre, encore une fois, de beaucoup de défiance, de rancœur, d'hostilité. Alors, il ne faut pas sous-estimer, d'un autre côté, l'impulsion qui peut venir du haut, des présidents, avec une certaine verticalité du pouvoir en Russie et pourquoi pas demain aux États-Unis. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, fondamentalement, il n'est pas sûr que, à long terme, les États-Unis et la Russie aient la même vision de ce que doit être le Moyen-Orient et de leur place respective. Je crois que la Russie et les États-Unis veulent restaurer une forme de leadership un peu partout. Parfois, ce sera compatible. À d'autres endroits, ce le sera moins.
Oui, c'est la question du leadership qui va faire problème.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que les Russes envisagent une participation américaine à condition que les Américains suivent leur ligne. Si et c'est pas du tout, il n'est pas du tout certain que les Américains acceptent.
Et la ligne des Américains pour la redéfinir.
Justement, toute la question est là. Le Pentagone a ses idées. Trump peut avoir les siennes, mais il s'apercevra avec la réalité du pouvoir et en se confrontant à la réalité sur le terrain, il verra que les choses sont moins simples qu'il ne le pensait. Donc la question essentielle qui va se poser, c'est celle du leadership. Je ne vois pas les États-Unis accepter un rôle de second, enfin en tout cas longtemps, dans la région, et la Russie n'est pas prête à leur en offrir un autre.
Alors, rôle dans la région pour poursuivre et peut-être clore ce chapitre moyen-oriental, Igor Delanoë. La Russie au Moyen-Orient, vous soulignez dans votre ouvrage que finalement, les intérêts de la Russie au Moyen-Orient ne sont pas si importants que cela, davantage que des intérêts économiques. Il y a une véritable volonté de puissance, de leadership. Après ça, on peut appeler les choses comme on veut, mais...
Bah, disons que c'est sûr que si on regarde les échanges commerciaux entre la Russie et le Moyen-Orient, c'est pas là que les choses se passent pour le commerce extérieur russe. C'est effectivement le commerce avec l'Europe, avec la Chine, qui sont des grands partenaires, je dirais maintenant, historiques de la Russie. Non, le Moyen-Orient, en fait, permet à la Russie, je dirais, de pallier un déclassement stratégique que nombre d'observateurs lui prédiraient dans les années à venir, et finalement de continuer de compter sur la scène globale dans l'optique de ce que vous rappeliez, à savoir un projet de puissance, le projet porté par Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir, en fait, hein, de compter sur la scène internationale. Et à ce titre-là, la crise syrienne lui offre pas mal de leviers, pas mal de cartes, et effectivement, on a possibilité d'alliance, on l'a vu dans le cas de l'Iran, une alliance relative, d'alliance militaire, et effectivement de reprendre pied tout simplement dans la région. C'est assez intéressant de voir que depuis qu'elle est intervenue militairement, elle a à peu près, je dirais non seulement elle a maintenu le dialogue avec tout le monde dans la région, mais elle a même étoffé avec certaines personnes, avec certains acteurs, dont on pourrait penser qu'a priori cette intervention militaire compliquerait les choses. Je pense aux gens du Golfe, par exemple. On pouvait imaginer, lorsque la Russie est intervenue, que ça achèverait de dégrader les relations avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont des États qui soutiennent l'opposition armée. Eh bien, pas du tout. On a constaté qu'au contraire, le spectre du dialogue s'est élargi et qu'on est dans une phase de prolongement, mais je dirais d'un dialogue qui s'étoffe.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Est-ce qu'on peut dire finalement que Proche et Moyen-Orient, c'est un espace, Arnaud Dubien, dans lequel Russie et États-Unis peuvent finalement échanger d'égal à égal, d'une certaine manière? En tout cas, c'est un terrain sur lequel une négociation est possible?
En tout cas, c'est une région où le jeu est ouvert, à la différence de l'Europe où il y a une alliance, l'OTAN, qui verrouille le jeu stratégique. Le Moyen-Orient, comme l'Asie, mais la Russie a plus de cartes au Moyen-Orient, permet justement de reprendre pied, d'utiliser ses interstices stratégique, de renouer des partenariats, je pense à l'Égypte par exemple, de profiter d'opportunités électorales par endroit ou de crise. Et donc effectivement, cela permet à la Russie de reprendre pied dans cette perspective de restaurer un dialogue d'égal à égal. Mais ce n'est pas une fin en soi, dans le sens de ce que vient de dire Igor Delanoé. Le Moyen-Orient, pour la Russie, c'est un moyen de retrouver un statut, une visibilité, une certaine centralité dans les affaires internationales. Mais le cœur des intérêts stratégiques russes, c'est l'Europe et c'est l'Ukraine.
On va y venir, mais pas tout de suite. François Stomme, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit?
Je pense aussi que l'affaire syrienne est en grande partie un volet de la politique européenne de la Russie. C'est-à-dire que le but de Poutine, c'était de montrer l'incapacité des Occidentaux dans la région, l'incapacité américaine, et c'est de faire la démonstration de l'incapacité américaine, de la paralysie américaine aux yeux des Européens. Et l'idée, c'est que la Russie peut se substituer aux États-Unis dans la région. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique quant à la collaboration future dans cette région entre les deux. Et elle peut le faire aussi en Europe, évidemment. Le message est très clair. Le message aux Européens, c'est que la garantie américaine ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez intérêt à vous rallier au plus fort. Le sens de l'opération syrienne, à mon avis, c'est celui-là. Le sens profond.
Arnaud Dubien.
Je ne pense pas au sens profond de l'opération syrienne. Je pense que le sens profond, c'est de retrouver le moyen de dialoguer d'égal à égal avec les États-Unis sur un dossier central de l'actualité internationale. Mais dans l'affaire syrienne et peut-être dans l'affaire libyenne aussi, il s'agit de faire la démonstration que les Occidentaux se sont trompés sur toute la ligne. Depuis les printemps arabes, de faire la démonstration, et Poutine l'a répété à très nombreuses reprises au club de Valdaï et ailleurs, que les Occidentaux en réalité ont joué avec le feu dans la région, depuis 2003 et l'Irak, ensuite avec la Libye, qu'ils ont été le principal facteur de déstabilisation de la région, et que la Russie aujourd'hui se pose en force qui vient en quelque sorte réparer les dégâts. Il y a un aspect fondateur, encore une fois, dans le narratif russe, mais également occidental. Les printemps arabes sont, et Igor Delanoé pourrait sans doute développer plus avant là-dessus, c'est un moment fondamental dans les dernières années pour la diplomatie russe, dans le discours diplomatique russe. Il s'agit pour la Russie, entre autres choses, de faire la démonstration, encore une fois, que les Occidentaux se sont trompés, ont joué un jeu dangereux et sont à côté de la plaque.
Alors justement, vous évoquez la Libye, j'y viens. Pour terminer cette première partie d'émission, on voit Igor Delanoé, la Russie jouer un rôle croissant en Libye, afficher ostensiblement son soutien au général Khalifa Haftar, qui est l'homme fort de la Cyrénaïque, opposé au gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Qu'est-ce que l'on sait des intentions de Moscou par rapport à la Libye ?
Écoutez, moi j'ai le sentiment que en Libye, déjà la Russie est, à mon avis, bien contente de laisser les Occidentaux se charger, je dirais, de régler la situation qu'ils ont créée eux-mêmes en Libye, en renversant et en détruisant le régime de Kadhafi. Cela dit, elle cherche à déjà avancer ses pions, en prendre position sur un dossier qui reste éminemment important pour notamment l'Union européenne, avec la question des migrants, la question évidemment du terrorisme, et au-delà de ça, ce qui existe entre le Sahel, l'Afrique subsaharienne, via la Libye, donc notamment les différents trafics et la circulation de groupes terroristes. Donc là, l'idée, c'est de se positionner déjà sur un dossier, effectivement, en ayant jeté son dévolu manifestement sur le personnage de Khalifa Haftar.
Ce qui n'est pas sans poser de problème, puisqu'il c'est pas l'homme qui a été reconnu officiellement par la communauté internationale. Donc voilà, c'est un peu un double jeu que joue Moscou sur la question libyenne.
Comme fidèle, je dirais, à sa tradition sur la région du Moyen-Orient, là aussi la Russie discute avec tout le monde. Elle discute avec Haftar, mais elle discute avec Sarraj aussi, donc avec les deux gouvernements. Et je dirais que là, ce sont plutôt les Occidentaux, en tout cas les Européens, qui ont plus de difficultés à discuter avec Haftar, parce que ça les mettra en porte-à-faux vis-à-vis du gouvernement que eux ont soutenu, qu'ils ont contribué à créer, qui est à Tripoli. Donc une fois de plus, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est un moyen de jeter le spectre, la lumière, sur les contradictions de, je dirais, l'approche que peuvent avoir les Occidentaux sur certains dossiers sécuritaires de la région. Donc oui, je pense qu'elle se positionne. Tout ce qu'on a pu entendre sur les bases navales, les contrats d'armement, je n'y accorde pas trop de crédit. Il y a un embargo sur la livraison d'armement à la Libye qui est toujours en vigueur. La Russie, évidemment, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU y adhère et le soutient. Et à mon avis, je pense que voilà, on est vraiment dans l'idée de se positionner en vue de peut-être l'après-Syrie. On est encore loin de l'après-Syrie, mais sur un autre dossier qui va compter dans les questions de sécurité régionale.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités François Stomme, Arnaud Dubien et Igor Delanoé dans quelques instants. À tout de suite.
Mémoire d'un continent. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les horizons de la politique extérieure russe en 2017. Nous retrouvons nos invités, Françoise Thom, historienne et maître de conférence à Paris 4 Sorbonne, Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, directeur et coordinateur du rapport annuel de l'Observatoire Russie 2016, et Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et auteur de Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient. Arnaud Dubien, nous évoquions à la fin de la première partie le rôle accru, croissant de Moscou, de la Russie plus généralement en Libye. Est-ce que l'on peut voir dans ce rôle qu'à la Russie aujourd'hui en Libye une sorte de pont sur l'Europe et quelque chose qui permettrait à la Russie de réintégrer les questions européennes et de reprendre place dans cet espace?
Plusieurs points qu'il faut rappeler lorsque l'on s'interroge sur la politique russe en Libye. D'abord souligner que la Russie ne part pas de rien. L'Union soviétique avait une relation très dense, très riche avec la Libye de Kadhafi pendant plusieurs décennies. La Russie de Poutine, dès 2006-2007, avait réinvesti ce pays par le biais notamment d'un effacement de la dette libyenne en échange de nouveaux contrats d'armement mais également d'infrastructures. Ces contrats ont été de fait compromis par ce qui s'est passé en Libye par l'intervention occidentale. Haftar, dont on parlait, a étudié en Union soviétique. Donc il y a des réseaux historiques, il y a des intérêts, pas seulement sécuritaires, mais également économiques. Alors, que veut faire la Russie de cette carte libyenne? C'est difficile à dire pour l'instant. Je pense que c'est bon à prendre. Il y a une espèce d'opportunité qui permet par ailleurs de se rapprocher encore un peu plus des Égyptiens, par exemple. Mmh. Il y a peut-être la possibilité de se placer sur les flux pétroliers, gaziers de la Libye. Et il y a peut-être aussi un pied de nez. Encore une fois, l'affaire libyenne est fondatrice dans le narratif de politique étrangère russe ces dernières années. Pour Moscou, le péché originel occidental après l'Irak en 2003, c'est l'intervention en Libye. Donc revenir là et faire la leçon aux Occidentaux, c'est bon à prendre, si j'ose dire. Est-ce que ça ira plus loin? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de dommages possibles. Une présence militaire, par exemple, qui est effectivement peu probable, aurait beaucoup d'incidents sur la relation russe de la Russie avec l'Italie, ce qui n'est pas souhaitable. Donc c'est une opportunité économique, stratégique, peut-être plus, mais c'est plus, encore une fois, une opportunité à la périphérie de la périphérie.
Igor Delanoé.
Oui, je pense qu'en fait, il y a en tout cas, à mon sens, une volonté de la Russie de se positionner en recours, ou en tout cas en allié ou en partenaire sur la question de la gestion du chaos libyen. Mais une fois de plus, je ne vois pas la Russie prendre le leadership sur ce dossier-là, s'en emparer de pleine main comme elle a pu le faire en Syrie, par exemple, à la satisfaction, à mon avis, des États-Unis qui ont été bien contents de voir la Russie s'insérer de plein pied dans un dossier dont eux, au final, ne voulaient pas vraiment. Ils l'ont démontré qu'ils n'étaient pas réellement intéressés par ce dossier syrien une fois que les armes chimiques étaient évacuées. Donc oui, à cet aspect-là, et pour rebondir sur l'aspect économique évoqué par Arnaud Dubien, se positionner pour de futurs marchés, notamment en matière de vente d'armement, puisqu'il y a une tradition dans l'armée libyenne d'utiliser le matériel ex-soviétique depuis les années 70-80.
Françoise Thom.
Simplement, en conclusion, je pense qu'il ne faut pas exagérer les succès de la Russie dans cette région. On a un peu tendance à voir effectivement les avancées assez spectaculaires russes au Moyen-Orient. Mais là, je crois qu'une approche historique nous permet un regard un petit peu plus critique. C'est-à-dire que, en général, les avancées sont temporaires dans la région. On ne voit pas, par exemple, comment la paix peut être instaurée en Syrie sans une présence militaire très étoffée sur le terrain. Autrement, le conflit va redémarrer. Donc, on peut dire que tout ça est un petit peu construit sur le sable, sans faire de jeu de mots, et il faut relativiser ces succès. Encore une fois, il faut attendre que les choses évoluent pour tirer des conclusions plus définitives.
Autre dossier, Arnaud Dubien, l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit gelé en Ukraine semblent s'être installés durablement dans le paysage géopolitique de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Quelle est aujourd'hui la stratégie de l'Ukraine, celle de la Russie? Est-ce que les lignes peuvent bouger?
Bon, c'est un dossier très très complexe. Aujourd'hui, il y a une impasse du règlement politique de la crise ukrainienne, du processus de Minsk, pour différentes raisons. De ce point de vue-là, les responsabilités sont partagées entre la Russie, qui continue à jouer un jeu assez trouble avec les séparatistes, dont on voit qu'ils sont à l'origine de nombreux incidents sur le terrain, mais il y a aussi, il faut le dire, et d'ailleurs ça commence à être dit, y compris par les chancelleries occidentales, une stratégie d'obstruction de la part des autorités ukrainiennes, s'agissant en particulier du volet politique, qui implique une autonomie du Donbass et qui n'est pas souhaitée. Il suffit de lire la presse ukrainienne, d'aller à Kiev, ou de prendre parti à Kiev pour le processus de Minsk, pour avoir de gros problèmes. Donc il y a une impasse, dont la France et l'Allemagne, qui sont coparrains du processus, n'arrivent pas à s'extraire. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger les choses? Peut-être effectivement les évolutions possible de la politique américaine. S'il y a bien un dossier régional sur lequel, à mon avis, l'administration de Trump va prendre des positions différentes de celles de la précédente, c'est l'Ukraine, pour plusieurs raisons, mais y compris des raisons très politiques et de politique intérieure. Sans doute vos auditeurs se souviennent-ils de ce qui s'est passé en août aux États-Unis. Le directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, a été contraint à la démission à la suite de révélations sur sa collaboration avec Yanukovych, qui était connu d'ailleurs, mais sur des révélations de fonds secrets qui sont révélés faux. Et je pense que M. Trump a la mémoire longue et qu'il n'oubliera pas cet épisode qui a failli lui coûter son élection. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi la politique européenne. Il y a une forme de fatigue de l'Ukraine, une forme d'exaspération. Il y a également au sein de l'Union européenne des rapports qui évoluent, et on voit qu'il y avait schématiquement 3-4 groupes au sein de l'Union sur la Russie, sur l'Ukraine, avec les partisans d'une ligne dure, les Polonais, les Suédois, les Britanniques, mais les Britanniques sont en train de sortir de l'Union européenne, les Polonais sont assez discrédités en ce moment en Bruxelles, il y a toujours des pays qui sont assez impatients de normaliser leurs relations avec Moscou. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus seulement la Grèce, l'Italie, on voit des pays comme l'Autriche, mais également des pays de l'Est, Slovaquie par exemple, ou la Bulgarie depuis peu. Donc tout ça est assez mouvant. Ce qui peut se passer en France ou en Allemagne aussi aura son importance, hein, au plan électoral. Donc il y a un blocage actuel avec une possibilité d'évolution. Ce qui serait souhaitable évidemment, ce serait une sortie par le haut qui ne sacrifie pas le processus de Minsk, mais qui en retire l'essentiel, mais qui sans doute met sur la table d'autres carottes, si j'ose dire, à la fois pour l'Ukraine et pour la Russie. Pour l'Ukraine, c'est à mon avis un plan de reconstruction du Donbass auquel devrait participer la Russie, bien sûr, et plus généralement une remise à niveau du pays. L'Ukraine est dans un état absolument catastrophique au plan économique. C'est la pire trajectoire économique depuis 25 ans dans cette région. Aujourd'hui, le rapport de revenus par habitant entre l'Ukraine et la Russie, c'est de 1 à 3, alors qu'ils étaient au même niveau en 91, et la guerre en Donbass n'explique pas tout. Donc, un plan, à mon avis, Marshall, si on veut, en tout cas, de remise à niveau de l'économie ukrainienne au-delà de la reconstruction du Donbass, et pour les Russes, on ne fera pas l'économie d'une discussion sur l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN et le positionnement international de l'Ukraine. Les deux sont liés.
François Stomme.
Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. D'ailleurs, Sergueï Markov, l'un des députés proches du Kremlin, l'a dit. La Russie se contentera pas d'une finlandisation de l'Ukraine. Ce qu'elle veut, c'est renverser le gouvernement de Kiev, et mettre un gouvernement qui lui soit soumis. Donc, il faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est ça le fond de la question. C'est la survie de l'indépendance ukrainienne.
Bon, Arnaud Dubien.
Bon, je ne surestimerai pas l'importance des propos de Sergueï Markov, qui accessoirement n'est plus député depuis très longtemps, mais c'est quelqu'un qui aime à faire croire qu'il est influent. Et évidemment,
mais
la Russie
traduit très souvent l'opinion.
Oui, c'était vrai il y a 10 ans. Mais bon, je pense, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'une finlandisation serait la solution acceptable. C'était déjà en réalité ce qui avait marché, entre guillemets, du point de vue russe sous Yanukovych. Pourquoi ça se passait bien avec Yanukovych? Yanukovych qui, par ailleurs, tenait très peu de ses promesses à l'égard de Moscou. Qu'est-ce qui comptait pour Moscou? Les accords de Kharkov et la déclaration sur le statut hors bloc de l'Ukraine. Ça suffit. Et je pense que, contrairement à ce qui a été dit, la Russie, en réalité, n'avait pas pour ambition, n'y croyait pas, de faire entrer l'Ukraine dans son union douanière. C'était la cerise sur le gâteau, éventuellement, mais peu de personnes y croyaient véritablement. Ce qui comptait vraiment, c'est de faire en sorte que l'Ukraine n'adhère pas aux alliances occidentales.
Union européenne et OTAN.
Absolument. OTAN, depuis longtemps, Union européenne depuis peu. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, qui avait longtemps été considérée comme inoffensive, entre guillemets, vue de Moscou, avec le partenariat oriental, a été perçue comme une rivale dans la zone. Presque au même niveau de l'OTAN. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque le projet de partenariat oriental a été porté par monsieur Carl Bildt, premier ministre suédois de l'époque, monsieur Sikorski en Pologne, et sous présidence lituanienne. Donc c'était évidemment un projet qui avait une certaine connotation. Mais je pense que la neutralité de l'Ukraine, la question c'est sous quelle forme et quelle garantie. Surtout que l'Ukraine, à juste titre, considère que les précédentes garanties de sécurité, mémorandum de Budapest, a été violée. Donc rien ne sera simple. Je pense cependant que c'est la seule voie de sortie.
Alors, juste pour bien comprendre, finalement, ce que veut la Russie, si je vous ai bien compris, Arnaud Dubien, c'est la certitude que l'Ukraine ne fera jamais partie ni de l'Union européenne, ni de l'Alliance Atlantique.
Oui, s'agissant de l'Union européenne, cette éventualité est de plus en plus improbable. On voit bien qu'il y a un consensus grandissant sur le fait de ne plus faire d'élargissement. L'OTAN, c'est moins clair, puisqu'il y a la déclaration de Bucarest, signée en 2008, qui mentionne que l'Ukraine et la Géorgie ont vocation un jour à rejoindre l'Alliance. Je pense que, vu de Moscou, le minimum, ce sera de réécrire cette déclaration.
François Stomme ?
Oui, je pense que la clé pour Moscou, maintenant, la priorité, ce n'est plus tellement l'Ukraine, ce n'est plus tellement les États baltes, c'est le reste de l'Europe. Et la question de l'étranger proche, aux yeux du Kremlin, elle sera résolue quand le reste de l'Europe se poutinisera, en quelque sorte. Hein, et là, les perspectives sont assez riantes pour l'année qui vient. Il suffit de lire la presse russe et d'écouter les émissions à la télévision russe. Le Kremlin a l'impression qu'il est en train de gagner dans toute l'Europe. Alors la question de l'Ukraine, elle va tomber d'elle-même, évidemment, puisque le grand problème aux yeux de Poutine, c'était la force d'attraction du modèle alternatif occidental. Et cette force d'attraction est en train de disparaître grâce à la propagande de la décrépitude de l'Europe, de la décadence de l'Europe, de la paralysie européenne, de la montée du nationalisme pro-russe en Europe. Le modèle européen est en train de disparaître aux yeux de l'étranger proche. Donc ça résout le problème pour aux yeux du Kremlin. Il suffit d'attendre maintenant. Et c'est ce que disait Alexandre Douguine, hein, les pommes sont mûres et on n'aura même pas besoin de secouer l'arbre pour qu'elle tombe à l'automne 2017.
Alors je me tourne vers Arnaud Dubien pour savoir comment vous positionnez sur ce que vient de dire, et peut-être on abordera plus généralement la stratégie de Poutine à l'égard de l'Europe, Arnaud Dubien.
Bon, je crois qu'il faut éviter les raccourcis, les simplifications, mais il est vrai que vu de Moscou, il y a un ordre libéral, mais c'est pas que vu de Moscou. Je crois qu'ici aussi on fait ce constat, certains pour s'en réjouir, d'autres pour le déplorer. Mais que d'abord l'Occident ne décide plus seul des destinées du monde, pour la première fois depuis plusieurs siècles. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'Union européenne en tant que telle est en crise. Il y a le Brexit, il y a eu, s'agissant spécifiquement de l'Ukraine, un référendum aux Pays-Bas qui a singulièrement compliqué l'entrée en vigueur de l'accord d'association et qui révèle finalement que dans les pays fondateurs de l'Union européenne, ce qu'on appelle la vieille Europe, il n'y a plus de volonté d'élargissement. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Mme Tom. À Kiev, en particulier, au sein des forces politiques qui se sont battues et qui ont vendu, contre tout réalisme d'ailleurs, d'une intégration prochaine ou à moyen terme dans l'Union européenne, évidemment, il y a un porte-à-faux, une désillusion. Peut-être certains de mauvaise foi ou imprudemment au sein de l'Union européenne ont fait miroiter à l'Ukraine des perspectives qui n'existaient pas. Je pense en particulier aux promoteurs du partenariat oriental. Nous savons de sources sûres qu'il y a eu plusieurs discours. Il y a eu discours polonais, discours suédois, discours anglais, puis il y a eu discours français et allemand beaucoup plus prudents, mais certains Ukrainiens ont voulu croire des choses qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, on est obligé de gérer ce dossier qui est épineux, douloureux et sanglant.
La question des sanctions à l'encontre de la Russie, est-ce qu'on va vers une levée prochaine de ces sanctions au bénéfice peut-être de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump qui souhaite répondre ? Igor Delanoë.
Enfin, en guise d'introduction sur ce sujet, moi je pense qu'aujourd'hui, la question des sanctions, dans l'immédiat, pour la Russie, je dirais, à court terme, n'est plus vraiment un problème. Il n'y a qu'à regarder le contraste qu'il y a entre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et celle qu'il y avait il y a un an, ou même il y a deux ans. Aujourd'hui, l'inflation existe encore, mais elle tend à être maîtrisée. On va rentrer a priori dans une phase de croissance faible et pas suffisante, mais une phase de croissance. Le rouble s'est consolidé face à l'euro.
Et tout cela au bénéfice finalement de la remontée des prix
de l'énergie, le brut a joué.
Gaz et pétrole.
Le prix du brut a joué effectivement. Bon, les Russes ont préparé un budget 2016 en misant sur un baril qui serait à $40. On voit qu'aujourd'hui il est au-delà de cette prévision. Cela dit, pour en revenir donc à cette question des sanctions, aujourd'hui la Russie rentre dans une phase, en tout cas ce qu'elle présente comme étant une phase de mutation économique, avec la question de la substitution aux importations qui est censée générer des réservoirs de croissance, des moteurs pour la croissance, qui à mon sens seront pas suffisants pour atteindre les 3 à 4% qui sont nécessaires pour véritablement soutenir ce projet de puissance, au minimum. Hein. Alors qu'on voit que en Europe, la question des sanctions est un problème au moins politique, économique peut-être pour certains producteurs dans l'agriculture notamment, ou pour la viande qui sont touchés par l'embargo russe, mais politiquement ça devient un problème puisque à l'approche de chaque cycle de discussion ressurgit des fractures. On évoquait tout à l'heure la Grèce, l'Italie, la Hongrie qui montent un peu au créneau et qui disent bon, on va pas revoter aveuglément et comme ça facilement la reconduction des sanctions, il faut renégocier. Donc ça met quelque part en lumière des fissures dans ce qu'on appelait le consensus face à la Russie.
Et c'est d'ailleurs ce qui intéresse la Russie. C'est essentiellement d'utiliser cette question pour provoquer la zizanie en Europe et dans le camp occidental.
Arnaud Dubien.
À court terme, pour les Russes, les sanctions ne sont plus un sujet. À long terme, c'est contrariant, l'accès au crédit, aux technologies. Mais à court terme, c'est plus un problème pour nous que pour eux. Et il faut voir ce qui se passe dans l'agriculture russe en particulier. Il faut le dire, il n'y a plus de marché pour le porc français en Russie. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, les Russes ont atteint l'autosuffisance dans ce domaine-là. Alors, est-ce que les sanctions vont être levées ou pas ? Trump peut le faire d'un trait de plume. C'est d'ailleurs ce qui pose problème avec le Congrès. Le Congrès voudrait brider potentiellement Trump sur ce sujet-là. En Europe, on voit que les lignes bougent, comme on dit, qu'il y a beaucoup, de plus en plus de pays qui y sont opposés. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui cimentait le consensus ? L'écoute téléphone de Madame Merkel et de Monsieur Obama. Je ne suis pas certain que Monsieur Trump prenne son téléphone avant les conseils européens pour dissuader les Hongrois, les Grecs, les Italiens, les Autrichiens, les Slovaques, peut-être demain, de s'opposer à la reconduction. Je rappelle qu'une seule voix suffit, en principe, pour contrarier ce processus de reconduction. La vraie question, en réalité, c'est la France et c'est l'Allemagne. Et en premier lieu, la France. On voit qu'il y a schématiquement 3 lignes parmi les grands candidats. Bon, si on regarde Madame Le Pen, c'est reconnaissance de la Crimée. Bon, il y a, si on prend les grands candidats, entre guillemets, en tout cas supposait-elle aujourd'hui, Monsieur Macron, qui est le candidat de la continuité, en fait, avec la ligne diplomatique Hollande-Fabius-Merkel, et M. Fillon qui fait entendre une musique un peu différente, qui n'est pas une rhétorique de lever il y a des sanctions. Il s'agit plutôt, comme je le disais, sans doute d'essayer de trouver une issue à l'affaire ukrainienne, si possible avec les Allemands, mais en cessant de caler notre calendrier sur la bonne volonté ukrainienne.
C'est-à-dire conforme à la volonté russe.
Non, c'est très simplificateur.
C'est ça la vérité.
Non, la vérité, la volonté russe, c'est Le Pen. Le Pen, c'est tous les rêves du Kremlin. Fillon, je ne pense pas que Fillon agisse dans l'intérêt du Kremlin. Je pense qu'il agit dans la conception, en tout cas son programme, la conception qu'il a de l'intérêt national français. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais je n'engagerai pas dans des simplifications et dans des débats de politique intérieure française.
En tout cas, tout cela sera plus clair après l'élection. Igor Delannoy,
très rapidement. Pour rebondir et très, très rapidement sur les aspects économiques, effectivement, comme le rappelait Arnaud Dubien, il y a la question de l'accès au marché du crédit pour la Russie, qui pose problème, qui est un sérieux problème, qui est lié aux sanctions. Et je pense notamment à la situation dans les régions russes, puisqu'il y a des régions russes qui sont très gravement endettées, qui n'arrivent pas à refinancer leurs dettes. Pour l'instant, c'est le pouvoir central qui renfloue les caisses. Mais là, par contre, il y a de sérieux problèmes. Et dernier point pour terminer, au-delà des sanctions, il y a quelque chose qui, à mon sens, est plus grave et qui va durer, c'est l'effet psychologique, ce qu'on appelle l'effet BNP Paribas, et la question de la compliance. C'est-à-dire que même si demain on levait les sanctions, si vous arrivez avec un projet qui est estampillé Russie pour avoir un crédit, même en l'absence de toute sanction ou de contrainte pour un projet qui ne touche pas à l'armement ou des secteurs sensibles, vous pouvez ne pas recevoir l'argent parce qu'il y a une frilosité des banques à investir le moindre dollar ou le moindre euro en Russie. Et ça, je pense que ça va durer même après les sanctions.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Igor Delanoë, qui est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, docteur en histoire et auteur de Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient, aux éditions L'Inventaire. Françoise Thom, historienne et maître de conférences à Paris 4 Sorbonne. Et Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, directeur et coordinateur du rapport annuel de l'Observatoire. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Marjorie Bertin et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux questions énergétiques. À demain.
Appelez-nous, exprimez-vous.